Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir un invité avec qui nous allons parler archives audiovisuelles, lutte politique, mais aussi histoire et mémoire, collage et montage. Bonjour Jean-Gabriel Perriot.
Bonjour.
Il est difficile de résumer votre filmographie faite d'une trentaine de courts-métrages et de trois longs-métrages, mais nous allons essayer. Peut-être faudrait-il commencer par le mot politique, car c'est un mot que vous utilisez pour décrire votre cinéma. Un cinéma politique sur la forme, puisque vous défendez l'utilisation de formes cinématographiques hétéroclites, parfois radicales ou expérimentales. Si vous avez fait des fictions ou des documentaires filmés, la majorité de vos films sont des remontages d'archives audiovisuelles. Vous les montez, animez, dessinez, accélérez, décélérez, recadrez, dédoublez, collez ou rembobinez, et vous faites aussi jouer ces archives avec des sons ou de la musique. Un cinéma politique sur le fond également, avec une vision critique du monde, en particulier de l'histoire du XXe siècle, que vous abordez sous différents angles. Quelques exemples, Hiroshima, que vous avez abordé avec votre montage et animation d'archives photo 200 000 fantômes, ou votre long métrage de fiction Lumière d'été, sorti en 2017. La Seconde Guerre mondiale également évoquée dans ses images violentes, traumatiques, catastrophiques, avec le remontage de films intitulé « Eût-elle été criminelle » montrant le spectacle des femmes tondues à la libération en France, les bombardements américains avec « Under Twilight » ou encore « Dies Irae », road movie de photos évoquant la Shoah. Également l'Allemagne des années 70, pour penser les liens entre activisme politique, front cinématographique et action terroriste violente dans votre film « Une jeunesse allemande » réalisé en 2015, ou encore l'héritage des luttes politiques en France après 1968, avec votre dernier film, Nos défaites, sorti le 9 octobre 2019 au cinéma. Un documentaire hybride réalisé avec une classe de lycéens et qui dresse un portrait politique de la jeunesse de notre temps. Car vous défendez aussi dans vos films les militants, leurs histoires, leurs luttes et la possibilité d'une révolte. Alors ce que peut ou non le cinéma dans le monde, l'engagement politique aujourd'hui, faire de l'histoire avec les archives visuelles et sonores, nous allons parler de tous ces sujets avec vous, dans le 14e grand entretien de Négatif.
Tout d'abord, pour mieux cerner qui vous êtes, Jean-Gabriel Perriot, quel serait le mot approprié pour décrire ce que vous faites comme activité dans la vie ?
Réalisateur ? C'est oui. En un mot, c'est dur quand même.
Vous considérez plus comme réalisateur, comme artiste, comme auteur, comme cinéaste, ou peut-être autre chose ?
Je dirais entre réalisateur et cinéaste, mais ouais, je peux employer les deux mots indifféremment. C'est juste qu'il me semble que pour moi, hein, dans réalisateur, il y a un côté un peu plus artisanal que cinéaste qui me renvoie quand même une idée un peu plus d'artiste. Et j'ai l'impression d'avoir une pratique quand même. Ouais, plus proche de l'artisanat que de l'art. Et dans sa fabrication, je pense, principe de fabrication, aussi dans une certaine forme de modestie.
Fabricant de films ou artisan alors, peut-être ?
Artisan de films, fabricant de films, ouais, fabricant de films.
Est-ce que vous êtes aussi monteur ? Est-ce que c'est une manière de vous définir ?
Oui, je suis monteur, mais j'ai été monteur, donc vraiment on pourrait dire monteur parce que j'étais payé pour être monteur. Comme monteur, maintenant je monte mes films, et du coup c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc je suis monteur par défaut de mes films, mais je ne me définis pas plus comme monteur, en tout cas. Pour moi, monteur, c'est un travail. C'était quelque chose de différent de ce que je fais quand je fabrique mes propres films.
Alors, en tant que fabricant de films, votre dernier film, c'est intitulé Nos défaites. Il est sorti le 9 octobre 2019. Vous avez été invité par le cinéma municipal Le Luxy d'Ivry-sur-Seine à passer du temps avec des lycéens de première dans l'optique de réaliser un film. De cette possibilité de rencontre, vous les avez confrontés à des images et des mots issus de l'après-68, de mai 68 et des années qui ont suivi, une confrontation qui est passée par l'archive de certains films, comme La Chinoise de Godard, La reprise du travail aux usines Wonder, ou encore Avec le sang des autres, du groupe Medvekin de Sochaux. Vous leur avez fait rejouer ces films, ils en ont tourné des remakes, travaillant comme acteurs et techniciens. Puis vous les avez interrogés sur les films et sur des questions générales, souvent politiques. Il y a plein de manières d'aborder ce film, mais j'aimerais vous demander, d'abord Jean-Gabriel Perriot, quels ont été les premiers points de rencontre, d'échange, de travail avec ces jeunes dans l'optique de ce film.
Déjà, il faut préciser que ces invitations, ce travail qui est entrepris avec avec la mairie et le cinéma de la ville à destination d'une option cinéma qui est à Ivry avec la classe de première, qui se fait chaque année avec des réalisateurs différents, c'est l'idée qu'on vient de faire notre propre film avec eux, et pas l'idée de participer à un film collectif ou de faire un atelier dans lequel ils prendraient, eux, l'écriture en charge ou la réalisation. Et du coup, c'est de faire un film à partir d'une rencontre avec un lieu et évidemment les gens concernés. Donc là, cette classe de lycéens. Et moi, je suis arrivé assez vierge. J'avais juste deux hypothèses de travail, si on peut le dire comme ça, qui était la volonté de faire un film sur la parole, de travailler la parole. Je ne savais pas sous quelle forme encore ça allait être pris, mais un peu comme j'ai pu faire avec les deux films que j'ai fait en prison ou avec un des derniers cours que j'ai fait avec un groupe de femmes chanteuses amateurs en banlieue, où c'est des films qui sont sur la parole. Je voulais continuer un petit peu ce travail-là. Et l'autre chose qui m'animait, c'était d'essayer de leur faire comprendre quelque chose qui est pour moi très important. C'est le fait que moi, ce qui me fait plaisir dans le fait de faire des films, enfin ce qui me fait plaisir, c'est pas le mot, mais en tout cas ça participe de... C'est une espèce de luxe pour moi de toujours faire un film, c'est l'occasion de se confronter à des choses qu'on connaît pas encore, ou mal, ou c'est imprécis, sur lequel on a beaucoup de questions, et du coup on fait un film, on est obligé de travailler, je dirais presque de manière un peu scolaire, c'est-à-dire on est obligé vraiment de se confronter plutôt que de se dire bon ben voilà, ça je le comprends pas, donc je le laisse de côté, c'est pas très grave. Là on est obligé de le faire si on veut réussir à faire un film, et je voulais donc du coup travailler avec quelque chose avec eux qui était très loin d'eux. C'est les hasards du travail avec eux qui ont amené ce film-là. Le fait que ce qui était loin d'eux, c'était ces archives de 68 et post-68 et les questions de la politique en général. Et ça vient de... Comme je voulais travailler avec eux la parole, j'ai commencé par leur montrer pas mal de films, un groupe de films documentaires, hors d'années différentes, de genres différents, sur des films dans lesquels des gens s'exprimaient, voilà, avec la caméra. Et parmi ces extraits, il y a un moment, il y a quelque chose qui les a plus émus, on va dire, que le reste. C'était une séance où j'avais amené des films des groupes Medvedkin, des films de Lude, des années... donc des films avec des étudiants autour de 68 et des films plutôt ouvriéristes en 68 et à la suite. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'à la fois, ils étaient, je dirais pas perdus, c'est qu'ils ne connaissaient rien du tout au contexte. Vraiment, enfin 68, c'est de l'histoire avec un grand H, et c'est comme le Moyen-Âge, quoi. C'est quelque chose qui est très très loin. Donc ils étaient un peu perdus dans le contexte, les mots employés, les discussions qui étaient, ou ce que racontaient ces gens étaient un peu loin. Et en même temps, ils étaient assez fascinés par à la fois l'énergie de ces films. C'est-à-dire, voilà, c'est des films de lutte, hein, donc il y a quand même une énergie, des gens qui prennent la parole, et les gens qui étaient représentés, enfin c'est des ouvriers, c'est des jeunes, c'est des gens qui normalement ne sont pas au cinéma, ou ne sont pas dans les médias, ou très très peu, et d'un coup on se dit, tiens, on peut faire des films avec des vrais gens, enfin, ou avec des gens dont ils peuvent comprendre une certaine situation. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette chose qu'ils ne connaissent pas et sur laquelle on va travailler, ça va être ça. Ça va être, du coup, est-ce que, et possiblement, est-ce qu'en réinterprétant ces extraits, on peut apprendre quelque chose aussi. Voilà. Donc ça, c'était des questions encore très ouvertes, et ça aboutit pas à pas à nos défaites.
Est-ce qu'en termes de forme, est-ce que vous saviez déjà à peu près où vous alliez sur la confrontation, les interviews que vous allez faire avec eux et sur le nouveau jeu de ces archives?
Non, je ne savais absolument pas où le film allait aller. Je ne savais même pas s'il allait y avoir un film, en fait, à vrai dire. Mais je pourrais dire ça de beaucoup de mes films, sauf plutôt la fiction, parce qu'à un moment, on a le budget, on tourne, on sait qu'il faut faire un film. Mais sinon, j'essaye des choses et des fois ça aboutit à des films. Donc là, c'était un peu l'idée. Et ce qui était sûr, c'est que j'allais avoir deux matières, donc du coup, qui se sont imposées, qui étaient celles de ces remakes. Donc il allait y avoir ces remakes-là. Et tout de suite aussi, je leur ai parlé de faire des interviews à partir de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur faisait d'avoir joué ça, quelles étaient les situations, expliquer les situations, etc. Mais c'est encore un peu flou. Par exemple, la question de savoir qui allait poser les questions, qui est un élément important d'un tel processus, c'est resté quasiment jusqu'à la fin ouvert. Moi, j'espérais que ça soit l'un d'entre eux qui le fasse. Mais en fait, je pense qu'ils étaient un peu intimidés ou un peu peut-être compliqué pour eux d'interviewer de leurs propres collègues. Et du coup, sur les derniers jours, la solution qu'on a trouvée, c'était que moi, je les prenne en charge. Mais pour moi, je n'avais absolument pas l'idée de moi mettre ma voix. Enfin, ça, c'était... c'est la première fois que je faisais des interviews, j'étais un peu mal à l'aise. Je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est pas très grave, j'enlèverai ma voix et puis je montrais ces interviews. Mais du coup, ça ne faisait pas un film. Le film est arrivé au montage. Du coup, là, il y a eu quelque chose. Mais c'était comme si la première partie, c'est d'abord collecter des matériaux et après, on voit si ça donne quelque chose ou pas.
Quelle place vous avez laissée à la préparation de ce tournage de film avec eux? Qu'est-ce que vous leur avez transmis ou appris?
Alors ça, il n'y a qu'eux qui pourraient répondre. Il n'y a qu'eux qui peuvent... La seule chose que je sais, c'est que... Donc, on a tourné le film en deux parties. En juin, le plus gros du film était là. Enfin, devait se finir là. D'ailleurs, l'expérience devait s'arrêter là. On a tourné plus tard en décembre. On y reviendra peut-être. Et du coup, oui. À ce moment-là, je leur avais demandé à chacun ce qu'on avait traversé pendant 6 mois et la fin du tournage. Comment ça, pour eux, ça jouait avec ce qu'ils étaient en train de vivre au lycée, qui était une situation donc, de blocus. Et comment ça se répondait, quoi. Et là, la plupart d'entre eux m'ont quand même répondu que quand on faisait les ateliers et quand on a tourné le film, ils ne comprenaient absolument pas de quoi il était question. Et que ça s'est éclairé plus tard, quelques mois plus tard, dans l'action concrète de bloquer le lycée. D'un coup, les choses revenaient, les gestes reviennent, les mots reviennent. Il y a quelque chose comme ça qui les a aidés dans la lutte et que la lutte a éclairé a posteriori. Et après, on a présenté le film quelques mois plus tard et évidemment, ils ont beaucoup changé. Et maintenant, ils peuvent... un peu plus facilement, des fois, raconter ce que ça leur a je sais pas si ça leur a apporté, mais en tout cas, ça leur a apporté forcément quelques connaissances ou quelques curiosités, en tout cas sur tout ce qu'ils ne connaissaient pas de la politique juste avant.
Vous tissez beaucoup de liens avec le passé. Vous ne faites pas partie de la génération 68, puisque vous avez aujourd'hui 45 ans, mais vous n'êtes pas non plus de la génération des lycéens qui sont nés au début des années 2000, au moment où vous avez commencé à faire vos propres films. Comment est-ce que vous avez réussi à tisser un lien avec eux, avec ces jeunes adolescents, malgré cet écart d'âge entre eux et vous, et entre eux et mai 68?
Déjà, sur la première partie, entre eux et moi, je me suis rendu compte, mais plus tard, en fait, une fois que le film était fini, qu'il y avait quand même quelque chose de la relation que j'avais avec eux qui était effectivement lié à la fois à l'âge et au cadre scolaire. C'est-à-dire que les ateliers se passaient dans le cadre des cours. Et ça ne m'était jamais arrivé, parce que les gens avec qui j'ai travaillé, c'était des adultes, déjà, qui, de manière volontaire, faisaient un film avec moi, à partir d'une proposition que je leur faisais là, d'une certaine manière. Moi, j'arrive, et c'est obligatoire. Et ça change évidemment le rapport. Et moi, je ne fais jamais attention à l'âge, mais là, quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que j'étais adulte, j'étais à l'école, donc j'étais un prof. Et que malgré tout, dans cette chose-là, c'est-à-dire que l'amitié que j'ai pu avoir avec eux s'est tissée après coup. A posteriori, parce que d'un coup il n'y a plus d'enjeu de scolarité, puis ils grandissent, maintenant ils sont étudiants, donc c'est un autre rapport. Mais je pense que j'ai pas réussi à défaire cette relation prof-élève. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait les choses parce qu'ils devaient les faire, pas forcément parce qu'ils avaient envie de les faire, ou pas tous. Enfin, je pense qu'il y avait quand même quelque chose comme ça, même s'ils étaient hyper volontaires, qu'ils ont énormément travaillé, mais malgré tout, il y a une petite chose qui était différente de d'habitude, où je me suis rendu compte, effectivement, surtout de l'écart d'âge et de la situation. Après, sur 68, je ne sais pas ce que ça peut dire. La vraie différence, c'est que pour moi, par exemple, 68, ça fait partie de l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, malgré tout, je vis dans l'héritage de 68, où je vois très clairement qu'on n'en veut plus de cet héritage. Mais en tout cas, ça fait partie, moi, c'est un des derniers exemples. Bon, les Gilets jaunes sont arrivés entre-temps, mais quand j'ai commencé le film, il n'y avait pas les Gilets jaunes. C'était peut-être 68 le dernier moment d'éruption en France, à ce point-là. Il y a eu des luttes entre-temps, mais à ce point-là où toute une société s'arrête, etc., c'était vraiment le dernier moment. Donc c'était pour moi un truc important, un truc très positif, quoi. Et pour eux, c'était de l'histoire ancienne. Vraiment, ça n'a plus aucune actualité, ça n'existe plus. C'est un truc de vieux qu'on lit dans les livres d'histoire, quoi. Et ça m'a assez refroidi, d'une certaine manière, mais en même temps, c'est logique, hein, c'est le temps passe. Et après, je sais pas pour eux, moi tisser enfin, les liens, c'était rien de plus que leur ramener le contexte, parler de ce qui s'était passé et surtout déborder de 68, c'est-à-dire pas s'arrêter en mai à Paris avec les pavés, mais montrer, leur ramener l'histoire du mouvement ouvrier, comment ça s'est fédéré à ce moment-là, les grèves générales et comment ça a eu un impact encore pendant 10 ans. Donc déjà un peu désaxer le côté un peu patrimonial, juste là. Un peu romantique. Et je pense que les faire jouer, c'était le moyen que j'ai essayé de leur faire, non pas comprendre quelque chose, mais d'essayer de leur... que ça leur pose des questions.
Et vous, vous étiez là pour faire le lien entre cette révolution introuvable qu'est mai 68, un peu comme le disait le philosophe conservateur Raymond Aron, et cette génération adolescente de 2019
Non, je n'étais pas là pour faire le lien. Après, je pense que j'ai fait avec eux ce que je fais avec l'archive, en général. Ça veut dire que quand on travaille le passé, qu'on la ramène au présent, se tisse tout un jeu d'écho, de relations, de... Ouais, y a tout un travail d'écho comme ça, de mise en relation, mais qui est assez abstraite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dialogue, on n'est pas dans l'explication de texte, etc. Mais d'un coup, si je prends l'archive, en tant que spectateur, quand on voit ces images-là, de la manière dont je les travaille, c'est-à-dire décontextualiser, etc., chaque spectateur s'empare ou pas, mais en tout cas peut s'emparer de certains échos et de voir ce qui, de ces images-là, est encore présent. Ou ce qui, pour le coup, a radicalement changé, ce qui a disparu. Et là, avec eux, c'était la même chose. C'est-à-dire, d'un coup, quand ils rejouent, qu'on sort du cours d'histoire, d'explication, mais qu'ils rejouent ça et qu'après nous, on le voit, ça crée des courts-circuits. Ça crée forcément des courts-circuits et on voit, grâce aux interviews, que des choses ont disparu. Simplement le vocabulaire, par exemple. Et qu'en même temps, il y a une énergie, l'énergie résistante, par chance, est là. On le voit dans la manière dont ils jouent, on le voit dans la manière dont ils parlent, possiblement de leur engagement, etc. Et à la fin du film, leur engagement réel, que malgré tout, 68 a beau être derrière, l'énergie militante, l'énergie de la révolte, etc., par chance, a toujours pas été détruite, malgré le travail de sape du capitalisme et du néolibéralisme, notamment par l'éducation nationale, depuis un certain nombre d'années.
Justement, sur les mots, sur le vocabulaire, il y a les mots qui sont dans les remakes, dans les films, les archives, mais il y a aussi les mots qui doivent être trouvés par les élèves dans les interviews que vous faites d'eux après les avoir fait jouer les extraits. Je trouve que votre film est vraiment marqué par les mots, par leur utilisation, leur justesse, leur fragilité et surtout leur sens. Un des élèves dit à ce propos qu'il veut trouver une bonne phrase. Il a du mal à s'exprimer à ce niveau-là. La pensée politique, la conscience politique, c'est aussi savoir nommer les choses, les définir et les utiliser. Par exemple, ils ont du mal à définir un syndicat, une grève, le communisme, l'anarchisme. Est-ce que vous avez travaillé avec eux sur ces mots et sur leur sens historique, politique ?
En fait, quand on regardait les extraits qui allaient devenir joués dans le film, moi j'aurais proposé beaucoup plus d'extraits de ça, il fallait qu'ils choisissent les extraits, mais à chaque fois, pour chaque extrait, on a parlé évidemment du contenu des extraits. Moi je leur demandais, pour vous, est-ce que vous comprenez le mot capitalisme ? Chaque mot qui était exprimé dans les extraits, on en a parlé. Après, peut-être pas syndicat, par exemple, parce que pour moi c'était une évidence qu'ils savaient. Visiblement, je m'étais trompé, mais en tout cas, on a pris le temps de parler de chacun des extraits. Et soit moi, je n'étais pas assez pédagogue, soit en tant que professeur, elle ne m'écoutait pas forcément aussi. Et puis, il y a aussi cette chose que je pense que c'est la première fois pour beaucoup d'entre eux qu'on parlait de ces mots-là. Et dans l'éducation, les choses se répètent. C'est-à-dire, il faut qu'on ait plusieurs fois, qu'on parle plusieurs fois de quelque chose pour qu'à un moment, on en saisisse vraiment le sens. Et moi, quand j'arrive et que je suis le premier, grosso modo, à leur faire de l'éducation civique, c'est pas assez. Donc du coup, moi, j'étais surpris qu'en ayant traversé tout ça et tout ce travail de remake, que dans les interviews, ces mots leur échappent encore. Voilà, il y avait un endroit où j'étais un peu surpris, parce que d'ailleurs, si on écoute mes questions, c'est toujours, c'est quoi la politique pour toi ? Quand je leur pose la question d'un syndicat, c'est avec l'idée de la réponse, mais est-ce que toi, tu serais prêt à te syndiquer ? Est-ce que tu trouves que c'est un vieux moyen ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose ? Mais je leur demande leur avis personnel, je leur demande pas des définitions. Mais du coup, j'ai réalisé même par là qu'en fait, il y avait effectivement des mots qui sont dont ils ne maîtrisent absolument pas le sens, et des mots qui, pour moi, sont effectivement très importants. C'est-à-dire, on peut plus, on peut pas lutter, on peut pas être citoyen, on peut pas comprendre ce qui nous arrive si on connaît pas ces mots-là, et indépendamment de quel bord politique on est, évidemment. Et ça, ça avait été une vraie surprise. Enfin, et heureusement, ils arrivent à s'exprimer et ils arrivent à, malgré tout, à partager quels sont les endroits qui peuvent encore les pousser, les choses qu'ils refusent, etc., malgré cette absence de vocabulaire. Alors, c'est ce qui m'a rendu optimiste, c'est qu'ils arrivent à être... ils peuvent être dans le monde malgré nous, quoi, malgré l'absence de transmission.
Est-ce que vous avez voulu garder en priorité ces moments de faiblesse, de fragilité, où ils ont du mal à définir et à faire les liens avec aussi un possible engagement qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous avez voulu les garder en priorité au montage?
Je ne dirais pas en priorité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette contradiction à peu près dans toutes les interviews, à des niveaux différents, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées, pas tous les mêmes familles, il y en a qui ont plus d'habilité que d'autres à parler, enfin il y a quand même des différences. Mais en tout cas, c'était toujours un peu, il y avait ce flottement toujours entre la volonté de s'exprimer et la difficulté de s'exprimer parce qu'on n'a pas les mots. Ça, c'était là dès le début. Et du coup, c'est ce qui justifie pour moi, ce qui est la nécessité à la fois de laisser mes questions, de voir d'où ça venait, et de leur laisser le temps pour qu'on ait ça. Parce que je ne voulais pas gommer... Par exemple, je ne voulais pas faire un empilement de phrases un peu généreuses, de « oui, il faut lutter contre les guerres, oui », qui aurait été un portrait assez faux, en fait, comme je ne voulais pas laisser que les erreurs. Mais du coup, j'ai essayé de trouver un équilibre que j'ai fait avec eux, en fait. Je leur avais montré la première version du film où j'avais mis plus de... Le début du film, il y avait plus d'erreurs. Sur d'autres mots, les classes sociales ou des choses comme ça, où il y avait des réponses assez perturbantes, mais qui pour moi était nécessaire, et le reste, parce que, même s'il y en a moins, parce que c'est grâce au fait qu'ils ne savent pas, la plupart d'entre eux, ce qu'est un syndicat, qu'on comprend qu'il y a un problème de transmission. C'est-à-dire que c'est pas eux, c'est pas grave, s'ils le savent pas, ils peuvent pas savoir quelque chose qu'on leur a pas appris. Donc il fallait aussi laisser ces erreurs pour comprendre cette chose-là, et aussi pour que l'oreille s'habitue, et que d'un coup, on comprend quand c'est un peu flottant, se dire, non, c'est pas grave si c'est un peu flottant, qu'est-ce qu'ils disent, malgré tout, à l'intérieur de ça. Ouais, il fallait aussi laisser un peu ces flottements et ces erreurs pour que malgré tout, on les entende.
Sur le dispositif d'interview, au début, moi, il m'a semblé assez brutal, la façon dont vous posez les questions avec votre voix off, avec la façon aussi dont ils sont cadrés, ils sont quasiment tous en plan rapproché, ils sont isolés du fond, ils vous regardent hors champ, mais vous n'apparaissez pas. On n'entend vraiment que vos questions. Même, on peut se demander si elles n'ont pas été réenregistrées, vos questions, pour être plus... Donc vous leur demandez comment ils feraient eux pour s'engager aujourd'hui. Le film tend de plus en plus vers ça. Par exemple, vous leur demandez de choisir entre un bon salaire et un bon métier, au sens où ce serait un métier qu'ils aiment, ou s'il faut faire grève aujourd'hui pour revendiquer un meilleur salaire. On les voit dans une forme de faiblesse et parfois d'impuissance à vous répondre. Est-ce qu'il fallait ce rapport d'autorité qui peut vous faire passer pour un directeur de casting ou un examinateur de grand oral pour les confronter à ces grandes questions?
En fait, il y a plusieurs réponses que je peux amener. La première qui est assez simple, c'est que c'est la première fois que je faisais des interviews. Donc, c'est-à-dire que je pense que j'étais aussi stressé qu'eux dans ce rapport, c'est-à-dire comment je m'exprime, etc. Et je fais aussi avec la voix que j'ai, c'est-à-dire la manière dont je pose les questions, etc. Moi, je le fais, mais... Je pense que si j'avais interviewé mes petits cousins, j'aurais eu la même voix et la même manière de parler, en fait. C'est juste que c'est super intimidant d'attendre que le micro il arrive, de bien poser sa question sans faire de savonnage, etc. Surtout qu'il y a des questions qui étaient écrites, mais après, je rebondissais sur leurs questions et j'essayais de trouver les bons mots. Donc c'est un exercice qui n'est pas très facile et j'entends quand même, surtout au début, c'est-à-dire les débuts d'interview, j'entends un peu mon stress avant que se mette une... où justement je me libère des questions écrites pour être plus dans la réaction de ce qu'ils disent. Moi, ce que je vois quand même à l'intérieur de ça, c'est qu'ils n'avaient pas l'obligation de répondre. Ils n'avaient pas l'obligation de finir l'interview. Enfin, rien n'était... je ne l'aurais absolument pas mal pris que quelqu'un me dise « Ah non, excuse-moi, je ne m'en sors pas, c'est trop violent cette caméra face à moi. »
Vous leur avez dit « Vous n'êtes pas obligé de répondre ?»
Est-ce que je leur ai dit ? Je pense pas, mais je pense que vu nos relations, c'était implicite. Et moi, ce que je vois quand même dans la manière dont ils me répondent, c'est malgré tout un rapport de confiance. C'est-à-dire où je les trouve assez admirables et où moi, j'entends qu'il y a de la confiance, c'est que il y a des moments où on voit surtout au début sur les questions un peu plus celles où je suis un peu plus stressé, qu'ils me répondent un peu comme un prof. Faut un peu la bonne réponse. Mais ça se défait, il me semble, et ce que j'aime beaucoup, c'est le temps qu'ils prennent à me répondre. C'est-à-dire pas un moment de lancer une réponse, d'attendre, de continuer à réfléchir, etc. Je trouve qu'il se joue là quelque chose dans ce temps-là. Moi, je sens, en tout cas, non pas une forme d'amitié, mais une forme de confiance. Je trouve qu'ils se livrent quand même beaucoup.
Ils s'exposent aussi.
Ils s'exposent beaucoup, c'est-à-dire ils osent donner des réponses très personnelles qui pourraient... c'est difficile de s'exprimer, ils auraient pu avoir peur de dire « Oui, mais là, je ne vais pas donner la bonne réponse. » Et je vois que cette confiance, elle est parce qu'ils ont vu le premier montage, qui n'est pas celui-là, qui est un montage bon, évidemment un peu plus chaotique, c'était le premier montage. Et je leur ai montré très vite pour qu'eux me disent, attention, parce qu'il y a des moments où vous êtes à côté, donc c'est quoi la limite, en fait, dans le montage? Que je ne veux pas que vous ayez...
À côté de quoi? À côté de...
Non, de, je veux dire, d'à côté, de leur donner une image qui, à la fin, soit trop dévalorisante.
D'accord.
D'eux-mêmes. Et du coup, on en a discuté, j'ai enlevé quelques trucs, etc., qui les gênaient. Ils m'ont fait confiance jusqu'au point où je pouvais mettre quelque chose comme les syndicats où ils se trompent tous. Ils auraient pu me dire, parce que j'aurais franchement posé la question, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous... voilà, ça vous... qu'est-ce que ça vous fait? Mais le fait que ça soit un peu collectif, ça les a rassurés aussi. C'est-à-dire que c'était pas les seuls à se tromper, que c'était pas voilà, que du coup ils étaient, faisaient partie d'un groupe. Et puis après, ils ont été assez intelligents pour Martin. Il disait en public quand on a présenté le film, une des questions du public, il dit mais de toute façon, si on s'était pas trompé, il y aurait pas eu de film. Ils ont aussi cette intelligence-là. Et j'entends quand même moi ce travail que j'ai passé avec eux, ce temps, je l'entends malgré tout dans la... Peut-être pas dans mes questions, mais ça, je ne peux pas être juge de la manière dont je m'exprime. Mais dans leur manière de me répondre et le temps qu'ils prennent, moi, j'entends la confiance qu'ils ont. Et malgré la sévérité d'une interview, c'est toujours un peu sévère, de toute façon, ce type d'interview, qu'ils s'en sont quand même défaits.
Il y a un deuxième temps dans le film qui est à la fois en forme d'épilogue et d'ouverture, qui surgit vers la fin. C'est un deuxième temps parce que vous revenez au moment de l'occupation faite par les lycéens de leur propre lycée. Une lutte politique en soutien de camarades mis en garde à vue suite à un tag Macron démission au moment de la lutte contre Parcoursup et du mouvement des Gilets jaunes. Ils vous expliquent cette lutte, leur lutte. Et un deuxième temps aussi parce que les lycéens rejouent une archive contemporaine, celle de l'arrestation et de l'humiliation par des policiers de lycéens de Mantes-la-Jolie. Cette vidéo d'une violence inouïe filmée par un policier alignant des mineurs les mains sur la tête en rang comme des prisonniers est glaçante. Comment s'est passé votre retour et comment avez-vous construit avec eux cette deuxième partie?
En fait, ça commence... Donc moi, j'étais en train de finir le montage de ce qui était censé être le film, hein, qui devait s'arrêter là, et déboulent les images de Mantes-la-Jolie, qui sont vraiment inacceptables. À un point de... On a beau s'habituer aux violences policières, etc., mais là, il y a un truc...
Quelque chose d'inédit.
D'inédit, quoi, qui est vraiment plus possible, quoi. Et j'étais vraiment, bon, comme souvent, en colère... mais là, j'avais la chance d'avoir ce groupe de lycéens à qui j'étais en contact. Et du coup, de demander directement à des lycéens qui ont le même âge que ceux de Mantes-la-Jolie, comment eux, ils vivaient cette image-là. Qu'est-ce que ça leur racontait comment, Et du coup, j'ai appelé Gaïs pour en parler avec lui. Donc, on en parle, etc. Et il m'apprend à ce moment-là qu'il commence à bloquer le lycée. C'était le deuxième ou troisième jour du blocus. Il me raconte l'histoire du tag et tout ça, des gardes à vue. Et du coup, je réfléchis avec lui et je lui dis mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on continue le film avec ça, quoi? À la fois Mantes-la-Jolie et ce que vous êtes en train de faire. Et ils ont tous dit oui. Avec cette chance, alors je ne sais pas si c'est toutes les classes, mais en tout cas, celle-là, ils ont tous participé au blocus, avec des degrés un peu différents, mais en tout cas, ils étaient tous partie prenante de la lutte. Et donc, du coup, quelques jours après, on est allé. Donc continuer le film quoi, avec cette séquence où ils sont... c'est étonnant ce qui s'est passé à la fois en quelques mois et ce qu'on entend de la lutte réelle et de comment ça les a changés. On voit qu'avec le même processus d'interview, d'un coup ils sont super, ils se tiennent droit, ils sont forts, la manière de parler est totalement différente. C'est-à-dire que là, c'est construit, c'est ferme, les mots sont là et ils énoncent des choses, voilà, des inacceptables quoi. La police ne peut pas faire ça, ils prennent pas de gants là, ils y vont. Et aussi, si on revient sur la question d'avant, c'est que là on sent qu'ils ont suffisamment confiance en moi pour m'énoncer des choses qu'on pourrait leur reprocher a posteriori, c'est-à-dire notamment de la part de la direction, de leurs autres profs, etc., ou s'exprimer dans un film qui va être montré le fait qu'on déteste la police, c'est beaucoup. Enfin, je vais dire, quand même, ils ont été assez... ils n'ont pas eu peur de dire ce qu'ils pensaient.
Et ça ne les a pas gênés que vous montiez ces images après? Est-ce qu'ils ont participé au montage aussi du film? Enfin, est-ce qu'ils ont eu accès au montage du film?
Non, pour des raisons très... d'abord techniques, qui faisaient que j'ai monté l'été, qu'après ils étaient sur d'autres cours, l'année du bac, etc., et que... le montage nécessite vraiment du temps, donc faire un montage avec 16 lycéens, c'est pas possible. Et je leur avais proposé de passer sur les différentes étapes de la post-production, mais avec les horaires de l'école, évidemment je travaille la semaine, ils sont au lycée la semaine, ça marchait pas. Par contre, je suis allé au lycée pour leur montrer les différentes versions de montage. La toute première, parce que justement je me suis dit comment ils vont prendre cette chose de malhabileté par moment de certaines réponses. Donc j'ai fait des coupes, après je leur ai renvoyé par Vimeo, on a revu, ils ont vu, ils ont vu les différentes versions, quoi, jusqu'à la version finale que j'ai finie en février.
À l'issue de la réalisation de ce film, Nos Défaites, est-ce que vous pouvez répondre à la question que vous nous posez aussi dans le film ? Avons-nous perdu la guerre ou seulement de nombreuses batailles ?
Ben, moi je pose la question, donc j'inclus la réponse à l'intérieur. Je pense qu'on a perdu de nombreuses batailles, mais on n'a pas perdu la guerre, heureusement. Si on avait... J'ai une tendance au pessimisme, mais pas au pessimisme total.
Est-ce que c'est un film pessimiste ?
Non, c'est un film qui soulève des contradictions. C'est-à-dire que c'est un film qui, d'un côté, a des aspects réellement, pour moi, optimistes. Enfin, ne serait-ce que sa conclusion avec Allah, quand elle dit « Aimez-vous, aimez la vie, battez-vous pour le meilleur », c'est d'un optimisme fou, quoi. Enfin, c'est d'une...
Des mots très simples et qui résonnent beaucoup.
Ouais, c'est super important. Et le film se finit quand même par ça. Donc, moi, quand je les entends, même dans la première partie du film, j'entends qu'ils ne sont pas résolus, quoi. Que tout peut continuer ou tout peut commencer, quoi, avec eux. Et d'un autre côté, il y a quand même un peu un fond de tristesse aussi, ou un fond de choses, moi, qui m'émeuvent, que je trouve terrible, en fait, qu'on forme... On est une classe de gamins de 17 ans dont deux veulent faire du cinéma et nous disent bien qu'ils ne vont pas le faire parce que c'est trop compliqué, qu'à 17 ans, on est trop jeune pour s'engager, qu'à 17 ans, on est trop jeune pour faire de la politique. Il y a une espèce comme ça par moment de choses. On se dit, mais oh là là, les pauvres, quoi. On ne leur offre même pas l'occasion de rêver. Et ça finit par le fait qu'on est dans une société où on peut envoyer des flics laisser 3 heures sur les genoux des gamins à Mantes-la-Jolie qui sont mineurs, ou pour un tag Macron d'émission, 36 heures de garde à vue pour des mineurs. Et ça, c'est pas positif. Enfin, ça, pour le coup, je me dis, on a laissé faire à ce point-là. Donc voilà, le film, passe d'un... Selon les moments, selon qui on est, ou selon le moment où on en est dans sa vie, le film porte des choses optimistes et des choses aussi un peu plus rêches.
On va un peu continuer sur vos autres films, notamment sur vos courts-métrages. Donc vous en avez réalisé environ une trentaine depuis 2000. Ceux qui nous ont le plus marqué sont ceux qui prennent la forme de remontages d'archives, qu'elles soient des photographies ou des vidéos, et d'une durée en général de 5 à 10 minutes. Quelques exemples, La lutte des classes avec We're Winning Don't Forget en 2004, la lutte afro-américaine pour les droits civiques avec The Devil en 2012, la répression policière avec L'art délicat de la matraque en 2009, les possibilités de révolte avec Les Barbares en 2010, les deuils d'Hiroshima entre 1914 et 2006 avec 200 000 fantômes en 2007, la beauté destructive des bombardements aériens avec Under Twilight en 2006, ou encore une histoire rembobinée de l'humanité sur Terre avec Undo en 2005. Ces courts-métrages ont été récemment compilés et édités en DVD aux éditions Potemkin, et certains d'entre eux sont disponibles sur votre page Vimeo, dont nous mettrons le lien sur notre site négatif.co. Parmi les thèmes traumatiques sur la Seconde Guerre mondiale que vous abordez, Dies Irae occupe une place singulière. Il fait partie de vos remontages de photographies, sauf que celui-ci se termine par une image de chambre à gaz. Nous allons essayer de comprendre comment vous avez travaillé sur ce court-métrage de 9 minutes, d'où est partie l'idée de ce film et comment avez-vous commencé à le construire.
En fait, je sortais de We Are Winning, Don't Forget, qui finissait par la mort d'un manifestant. Donc, une image assez lourde. Et je sais pas, j'ai commencé à collectionner sur Internet des images de corps morts ou de corps violentés pendant les guerres. Et notamment, évidemment, vu l'époque, le Rwanda et la Bosnie. Et je suis resté très longtemps avec ces images de civils. Je prenais que des civils. Les militaires, c'est leur métier d'être tués, donc ça me touchait un peu moins. Et je ne savais pas quoi faire de ces images-là. C'est-à-dire que je commençais à regarder et c'est des images qui finalement était immontable. Enfin, par moi en tout cas, il y a des gens qui utilisent ce type d'image, mais pour moi c'était totalement immontable. Et ce qui s'est passé, c'est que...
Pourquoi elles étaient immontables pour vous ?
Parce que pour moi, chacune d'entre elles mérite une exposition en tant que telle. C'est-à-dire, chacune d'entre elles dit tellement, et par respect pour les gens qui sont représentés. C'est-à-dire que monter ça, c'est-à-dire qu'il faut donner une infinité de temps à chacune des images. Donc, à partir du moment où chacune a une infinité de temps, on ne peut plus en mettre deux, quoi. Il y avait quelque chose je trouvais ça obscène, en fait, de les monter. Ou de leur donner un temps qui était trop court. Donc, voilà, j'étais vraiment empêtré avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les recherches, donc c'était Google Images, hein, les débuts de Google Images et tout ça, quand on cherche ce type d'image, par les hasards des mots-clés, On se retrouve avec des images qui sont toujours annexes, indépendamment du sujet qu'on cherche d'ailleurs. Et là, du coup, par exemple, si je tapais Rwanda, je me retrouvais aussi avec des images de cimetières au Rwanda ou des images de mémoriaux de la guerre ou quels que soient les endroits, j'avais comme ça des images qui montraient des espaces de souvenirs. Et souvent dans ces lieux-là, il y a des chemins. C'est souvent construit par des petites allées dans les cimetières pour passer d'un endroit à l'autre, dans les lieux de commémoration pour traverser des espaces vides où un peu on se vide un peu quoi, pour faire un travail de deuil. Et Diessiré vient de là, en fait, vient de ces images qui sont des images où la catastrophe ne se voit pas, mais elle est là, et de ces chemins à traverser. Et ce qu'a donné le début de Diessiré, c'est-à-dire cette traversée qu'on va faire, qui est à la fois une traversée du monde. Alors, métaphoriquement, on pourrait dire que c'est une espèce aussi de traversée de la vie, quoi. On commence et on finit. Et Auschwitz arrive parce que dans tous ces endroits, il me semble que c'est quand même un des endroits les plus forts quand on commence à se poser la question de comment des civils meurent abruptement dans une guerre sans en avoir aucune idée. C'est-à-dire d'arriver, les gens... bon, certains qui étaient dans les wagons le savaient, mais c'est quand même la fin violente était inattendue pour la plupart d'entre eux, quoi. Du coup, ça a fini là-dessus. Et puis, dans les photos d'Auschwitz, les rails, enfin, quelque chose allait avec cette idée de traverser des espaces et d'arriver à un endroit où on ne traverse plus l'espace, c'est-à-dire où ça s'achève. Voilà le début de ce film.
Et ensuite, comment vous les montez concrètement ? Est-ce que vous commencez par une image, vous les assemblez toutes dans le même plan de travail et vous essayez des choses ?
En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la manière dont va se construire le film, c'est-à-dire que là, la seule chose que j'avais, c'était la fin du film. C'est l'arrivée à Auschwitz et la fin dans les camps, enfin dans les chambres à gaz. Le reste se construit par les images que l'on trouve. C'est-à-dire que là, j'avais, si on prend un film comme celui-là, par exemple, j'avais dû télécharger 15 000 photographies de routes, de chemins, de couloirs, enfin, tous les espaces que l'on traverse. En plus des images de mémoriaux ou de cimetières qui sont dans le film mais qu'on ne voit pas, évidemment, vu la vitesse de montage. Et en fait, la manière dont on commence à classer les photos est ce qui va séquencer le film. C'est-à-dire qu'il y avait des routes dans des paysages désolés, dans des déserts, dans des montagnes. Il y avait des routes dans les villes, il y avait des routes dans les campagnes, il y avait des routes avec d'autres voitures, il y avait des routes sans voitures. Et du coup, simplement, quand on commence à les trier, ces photos, on choisit les éléments par lesquels on va les trier. Et forcément, ça commence à faire des séquences, quoi. Les espaces désolés, les villes, les couloirs, les chemins de fer, enfin les rails de chemin de fer. Donc là, ça me donne une structure narrative, on va dire, d'une certaine manière. Et après, le montage est toujours difficile à expliquer. C'est des essais, c'est surtout beaucoup d'essais. C'est un film, j'ai beaucoup travaillé au début pour essayer de voir comment ces photos allaient s'agencer. Est-ce qu'elles étaient en cut ? Est-ce que d'un coup on les rentrait les unes après les autres ? Quelle allait être leur durée ? Tout ça se fait au fur et à mesure de manière pour le coup très empirique et on cherche quoi. Jusqu'à un moment on trouve une certaine justesse entre le son et l'image ou entre le... Et après on fait souvent voilà, une V1 et après on revient dessus. Et c'est un peu expérimental dans la pratique, le montage.
Justement, comment est-ce que vous avez trouvé la musique du film ?
La musique, en fait, elle venait un peu comme les images. C'est-à-dire que j'ai pris des images du monde entier et je voulais que la musique soit portée par des chants traditionnels du monde entier, ou de la musique plutôt traditionnelle plutôt que du chant. Et du coup, je l'ai composée avec des solos instrumentaux, la plupart du temps, des voix, des tambours, des cordes, enfin plusieurs types de choses que j'ai montées ensemble pour donner une espèce de musique un peu... universel, ça fait un peu nier, mais en tout cas de musique un peu de plusieurs espaces. D'essayer de trouver ce qu'il y a en commun dans les photos, mais aussi dans la musique.
Et ensuite, est-ce que ces relations entre images et sons, vous les pensez ? Ou est-ce que ça se fait aussi empiriquement que comme le montage des images ?
Alors des fois, ça se pense. C'est-à-dire que des fois, ça se pense parce que si je prends Utel était criminel sur la libération... la Marseillaise a un côté, l'utilisation de la Marseillaise était un peu obligatoire parce que déjà ça faisait partie du sujet, c'est-à-dire que les symboles nationaux et la Marseillaise est quand même l'hymne national, et aussi pour des questions documentaires parce que la Marseillaise a été rejouée beaucoup à la Libération, comme elle avait été interdite, et possiblement elle a dû être utilisée au moment où il y avait les tontes. Donc là il y a un rapport logique, on va dire, mais sinon c'est plutôt un rapport sensitif ou poétique à la musique, donc ça là elle est très dure à préciser, et c'est le plus gros du travail pour moi sur ces films, c'est d'un coup, quelle musique, quelle énergie dans la musique ? Quelle énergie va avoir le film ? Et la musique, elle arrive toujours avant, sauf dans Les Barbares où elle s'est faite en même temps, mais sinon elle arrive avant, parce que les systèmes de montage ont à voir avec le rythme de la musique, et je ne peux pas réécrire tout un film si je change la musique. Et donc la musique arrive toujours avant. Et si je reviens sur Dies Irae, par exemple, je montais toujours un petit bout de musique avant de faire le montage image. Donc je n'avais pas toute la musique du film, je l'agençais au fur et à mesure. À chaque fois, je rajoutais des briques dans la musique. Et après, je passais à l'image.
Est-ce que vous vous êtes posé la question d'un certain tabou visuel qui pourrait être représenté ou qui pourrait ne pas être représenté ?
Sur ce film-là ?
Ouais.
Moi, je ne me la suis pas posée parce que ce ne sont pas des questions que je me pose. Enfin, je me les pose comme lecteur. Hein. Plus à ce moment-là, je pense... Est-ce que c'est à ce moment-là que Didier Huberman avait écrit Image malgré tout ? Enfin, je ne sais pas, il y avait peut-être déjà un débat avec les Lanzmanniens et plutôt les gens du côté Didier Huberman sur les questions de la représentation de la Shoah, etc. Mais moi, c'est des questions que je ne me pose pas, et en tout cas pas dans ma pratique. Et c'est a posteriori, c'est-à-dire que quand le film a été fini, qu'on me le sort encore, oui, mais vous n'avez pas peur d'utiliser les images de la Shoah et de les rendre... Enfin, je sais pas trop, j'ai du mal à comprendre les arguments, donc j'ai du mal à les reprendre clairement, mais c'est des questions qu'on m'a posées ou qu'on me pose régulièrement, notamment sur ce film-là, parce que l'espèce d'intouchabilité de la Shoah et de sa représentation, moi j'ai besoin de faire ce film-là, j'ai besoin qu'il se finisse là, et je me pose pas la question. Après, on peut me taper sur les doigts, c'est pas mon sujet. C'est justement parce qu'il y a trop de tabous visuels qui fait que sur plein de sujets, on est bloqué, sans se rendre compte sans jamais mettre à nu ou à jour les sous-textes idéologiques et politiques des questions de la représentation. Et que ça, il faut les questionner en permanence. L'histoire n'appartient à personne, ni sa représentation. Enfin, si, elle appartient justement plutôt aux puissants, et que quand on veut faire des contre-histoires, quand on veut... Il faut se dégager absolument de la manière dont ces questions-là sont posées.
Vous n'avez aucun tabou de représentation ?
Moi, j'ai des limites. Il y a des choses, on en parlait, je ne peux pas utiliser d'images de corps. La seule exception, c'est Utel était criminel. Et je pense que j'ai pu le faire parce que ces femmes ont survécu à l'événement. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, il y a des films, des réalisateurs qui ont utilisé ce type d'image de manière magistrale et importante. Donc, des fois, des réalisateurs font n'importe quoi. Donc là, on pourrait dire, non mais... Mais je ramène toujours au fait que ce réalisateur ou cette réalisatrice a fait n'importe quoi. Pas le fait que ça soit... un interdit global, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit. Il y a toujours des contre-exemples à chaque règle qu'on voudrait imposer.
Avec cette forme expérimentale, quelle place vous pensez laisser au spectateur ou à la spectatrice de ce film ?
Alors, de manière très honnête, et quand je fais un film, je ne me préoccupe pas du public. Jamais, ce n'est pas ma question. Je ne suis pas là pour ça. Je fais les films qui, moi, me touchent, moi, me questionnent, etc. Et la question du public, elle arrive une fois que le film est fini et que je le présente. C'est-à-dire que le film, dans tous les cas, ne bougera plus jamais, indépendamment des réactions que peuvent avoir les spectateurs. Après, d'expérience, je me rends compte que les films ont des effets sur les spectateurs. Et qu'en général, les questions que, moi, un film me pose ou les émotions que, moi, un film me suscite sont partagées avec au moins une partie des spectateurs. Mais peut-être que ça vient du fait que quand j'étais monteur, j'étais toujours assez étonné du fait que les réalisateurs aient besoin de montrer leur film à tout le monde, d'avoir des retours de spectateurs, qu'ils remontaient leur film si quelqu'un n'avait pas compris quelque chose. Alors pour eux, c'était jusque-là, il ne fallait pas que ça bouge. Et je les voyais détruire leur film en pensant au public. Vraiment. Parce que ça n'existe pas un film qui plaît totalement à tout le monde. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à faire mes films, je me suis tout de suite défait de ça. Et je me suis aussi tout de suite rendu compte que ce n'est pas parce que je suis cinéaste que je suis une espèce d'être singulier, unique, et que ma sensibilité, elle est partagée par une partie du public qui voit très bien ce que je cherche, ce que je peux mettre dans les films. Ça échappe à une partie du public, mais c'est normal. Mais il y a du commun quand même avec les spectateurs sans que je me préoccupe d'eux pendant que je fabrique un film.
À ce propos, un de vos films le plus radicaux est Under Twilight. Donc c'était un film de remontage dans lequel vous exploitez des films pris depuis des bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale, au cœur du combat. Vous le décrivez sobrement comme beauté et ou destruction. Les images sont dédoublées par un effet miroir, c'est-à-dire que deux images identiques sont collées à l'horizontale. Il y a aussi des scintillements qui donnent l'impression que les avions ou les bombes sont comme des fantômes, restent immobiles. Une question simple, d'où est partie l'idée de ce film ?
Pour le coup, ça venait de questions qu'on me posait souvent sur les films précédents, où on me disait des questions ou des critiques sur le fait que on pourrait être gêné par l'aspect esthétique de mes films, en sachant que ce sont des films qui parlaient de la destruction. Donc, est-ce qu'on peut rendre jolie la catastrophe, d'une certaine manière
L'esthétiser.
Donc, c'est pareil, c'est des questions que j'ai du mal à comprendre, enfin, ou des critiques. Et du coup, à un moment, ça m'a quand même interrogé. C'était un peu répétitif. C'est-à-dire, et du coup, je suis revenu à des images. J'ai eu envie de travailler des images qui, pour moi, me permettaient de m'interroger là-dessus, qui sont ces images d'aviation, parce que c'est peut-être les images les plus belles des images militaires. C'est-à-dire, c'est des images qui, en tant qu'images, sont magnifiques. Les avions sont magnifiques. Et on arrive toujours à oublier, quand on voit ces images, qu'en fait, ce sont des images de mort. C'est la mort. Ces avions sont faits pour bombarder, pour tuer des civils, etc., ou des militaires, mais en tout cas, c'est des images de mort. Et il y a cette contradiction dans ces images. Je parle en tant que moi, de spectateur, de ces images-là. Je les trouvais vraiment, et je les trouve toujours très, très belles, quoi. Ou même ces images de... Par exemple, celle qui est très connue du Vietnam, avec le napalm qui est déversé sur les cocotiers, là, qui est utilisé dans énormément de films. C'est juste magnifique, ces images-là. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un moyen d'essayer de les casser, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Simplement, est-ce qu'il y a une manière de les déstructurer, de voir ce qu'elles contiennent? Et du coup, ça a donné Under Twilight.
Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'altérer ces images, justement, par l'effet miroir?
Parce que l'effet miroir a une capacité très étonnante à rendre encore plus beau les images de base. C'est un des effets graphiques du montage qui est assez fascinant dans ce que ça crée, quoi. Ça crée une espèce de nouvelle image dans laquelle on se projette. Enfin, la symétrie, il y a quelque chose qui joue, on garde quelque chose de l'image originale et on crée une espèce de poésie explosive avec l'effet miroir. C'est une espèce d'effet gagnant, entre guillemets. Tout devient beau avec un effet miroir. Et du coup, ça me permettait aussi de créer de la dynamique, parce que c'est un faux effet miroir que je fais. Tu parlais de scintillement, il y a ça, c'est un flaking en même temps. Du coup, il y a un effet miroir, mais qui est un peu différent. Et je savais, moi, avant de le faire, que ça allait les rendre encore plus belles. Et justement, c'est pour ça que je voulais le tenter. Après, moi, ce que je vois dans le film, c'est toujours des images de mort. C'est-à-dire que ça, c'est indécrottable. Enfin, pour moi, c'est indécrottable. C'est toujours là. Et d'ailleurs, dans le film, c'est... je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je le vois, je vois toujours à la fin, à un moment, il y a des humains qui courent. On voit des humains qui essaient d'échapper aux avions. Et c'est finalement ce qu'on voit le plus dans... Enfin, ce que moi, je vois le plus dans le film, c'est ça. C'est les rares présences des humains sur la fin qui sont... Ou d'un coup... c'est-à-dire que malgré tout, t'as des gens qui fuient, là.
Le son a une importance particulière dans le film, vous le retravaillez aussi beaucoup. Comment est-ce que vous avez effectué ces altérations du son ?
Alors ça, le morceau est comme ça, le morceau de base. Je n'ai vraiment pas touché la musique, le film est vraiment monté sur une musique qui existait en tant que telle. Donc après, c'est de la musique expérimentale, donc on pourrait penser que moi je l'ai un peu traficoté, mais en fait, c'est le morceau tel qu'il est.
Vous n'avez pas rajouté des sons des archives ?
Non, pas dans ce film-là.
Nous, on avait pensé que c'était un assemblage de sons, tellement ça fonctionne de façon synesthésique avec les images. Est-ce que vous aviez du coup un peu monté comme vous aviez la musique au préalable, est-ce que vous avez monté le film un peu comme monté sur le rythme de la musique? Ou est-ce que vous avez quand même fait vos images indépendamment et vous avez collé la musique et ça fonctionnait
Non, c'est monté sur la musique, vraiment monté sur la musique. Après, des fois, c'est difficile parce que les plans ont une durée qu'on ne peut pas changer. Donc, des fois, c'est trop court. Après, ce qui se passe sur la musique, c'est qu'il faut quitter... Sauf qu'on a besoin d'un moment, par exemple, sur les films, un peu plus d'agit-prop. Si on prend L'Art délicat de la matraque, on est monté en rythme réellement de la musique, c'est-à-dire la batterie. Et parce que c'est un film qui doit être efficace, ça amène de l'énergie, quoi. Il faut y aller. Mais sur les autres films, la plupart du temps, je peux dire « on » parce que ça déborde ma propre pratique. On monte... pas si souvent que ça, sur le rythme premier d'un morceau. On va choisir soit des contretemps, soit des harmoniques. C'est-à-dire c'est comme si on rajoutait, le montage rajoute un instrument en fait à la partition, plutôt que suivre un des instruments déjà là. Donc, si on commence à regarder précisément, c'est-à-dire que ça ne tombe pas sur le rythme attendu, mais c'est malgré tout mélodieux dans le rapport à la musique. C'est en rythme sans être au premier degré en rythme, quoi. C'est vraiment comme si on rajoutait un autre instrument.
Est-ce que vous êtes intéressé dans votre parcours aux théories du montage qui ont pu être faites par des cinéastes ou des théoriciens de l'image ?
Non. Oui et non, on va dire quand j'étais étudiant ou jeune monteur, évidemment ça m'intéressait, mais toutes les techniques du cinéma m'intéressaient. À part qu'il n'y a pas beaucoup de textes sur le montage. Enfin, il y a des textes, mais il y a beaucoup de textes un peu universitaires pour le coup d'apprentissage du montage ou de... où on ressasse sinon espèce de compilation de théorie du montage, l'effet Kuleshov et tout ça. Mais une fois qu'on l'a vu une fois, on n'a pas besoin de revenir 40 fois. Mais là, récemment, il y a un très, très beau bouquin qui est sorti, je pense, il y a 2 ans, coédité par la HED, l'école de cinéma de Genève, où ils ont fait une anthologie de 100 textes autour du montage depuis la création du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est assez fascinant parce qu'ils ont fait un travail vraiment d'aller chercher des choses qui étaient difficilement accessibles et des manières de penser le montage. Il y a des théoriciens, mais il y a des monteurs, il y a des réalisateurs. Et du coup, ça ouvre un peu le... Ça, je trouve, c'est la première fois que je trouve un livre vraiment... assez fascinant, mais jusque-là, je ne trouvais pas grand-chose. Il y a des textes, hein, mais après, j'ai aussi une limite de temps de lecture et tout ça. Donc...
Ça nourrit également votre pratique, ces lectures ?
Non. Je dirais la seule chose qui m'a vraiment aidé à comprendre, pas à me comprendre, mais à mettre des mots sur ma pratique, c'est le travail de Didier Berman sur le montage d'archives, sur l'image d'archives et le montage d'archives, notamment dans toute sa dernière série sur l'œil de l'histoire, où il commence plutôt sur le cinéma, où il essaie de comprendre... Qu'est-ce que l'image d'archive et comment elle réagit dans le montage ? C'est-à-dire pourquoi on monte de l'archive ? Et à partir du travail d'Abby Warburg, donc de l'image fixe, et il essaie de l'appliquer au cinéma. Donc il n'est pas arrivé au bout, je trouve, de son cheminement, mais déjà il avance et il amène des mots qui, en tout cas, moi, sont très utiles pour essayer d'expliquer ce que je cherche avec mon. Enfin, ce que je cherche. D'essayer de comprendre moi-même ce que je fabrique avec le montage.
Il y a des cinéastes qui écrivent des textes théoriques ou pour expliquer leur pratique. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit ? Ou est-ce que vous l'avez peut-être fait, mais pas publié ?
J'ai sorti un bouquin l'année dernière.
Oui, avec...
avec Alain Brossa.
Mais c'est un livre de conversation.
C'est un livre de conversation, mais la proposition était que j'écrive un livre. Mais j'en suis incapable. Et du coup, comme avec Alain, on s'entretient depuis très longtemps, j'ai proposé ça à l'éditeur. C'est-à-dire, non pas un livre que moi, je signerais, mais du coup, dans une conversation... J'ai proposé, j'aurais beaucoup de mal à écrire un livre tout seul où j'essaierais justement de parler théorie ou de parler à partir de mon travail. Si je suis tout seul face à une page blanche, j'ai rien à dire de mon travail. Ou pas grand-chose, en tout cas ça fera jamais un livre.
Même sans l'écrire, est-ce que vous théorisez quand même un peu votre travail ?
Non. Non, évidemment, quand je finis les films, et surtout quand je commence à, voilà, comme j'ai commencé à en voir plusieurs, je vois quand même les endroits de récurrence. Et du coup, ce que ça trahit et de mes intérêts et de la manière dont je travaille aussi. Je vois ce qui a changé, je vois... sur la question du public, je vois comment le public agit, donc ça, je l'entends, etc. Ça me permet de voir a posteriori ce que je cherche. Mais quand je fais un film, je ne sais pas ce que je fais. Ou en tout cas, j'essaie de me détacher. Dès que je pense savoir ce que je fais, ça m'ennuie, j'arrête. Enfin, je change.
Une des questions de cinéma et de politique que nous posons à plusieurs invités est celle des Gilets jaunes. Faut-il filmer ce mouvement ? Si oui, par quels moyens ? Comment représenter un tel mouvement populaire et politique ? Nous avions reçu les cinéastes Emmanuel Gras et Florent Marcy, qui préparent tous les deux des documentaires filmés à ce sujet. Vous, Jean-Gabriel Perriot, avez-vous réfléchi à cette question il y a un an lors de l'apparition du mouvement ?
Alors, sur moi, ma propre habilité à faire un film sur les Gilets jaunes, la question est vite résolue parce que je ne sais pas filmer le contemporain. C'est pas l'endroit où je travaille. Je sais que je suis incapable d'aller manifester. Enfin, je suis capable d'aller manifester, mais je serais incapable d'aller manifester avec une caméra. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai besoin de temps et de recul pour filmer quelque chose. Et donc, je suis incapable de participer à un événement et de le filmer en même temps. Y a plein de gens qui savent magnifiquement le faire, hein. D'ailleurs, je suis toujours assez bluffé par des gens qui arrivent à ramener des images tellement impressionnantes et en termes de forme et en termes de contenu, alors que ça se passe en direct. Moi, je ne suis pas du tout de cette... Je reste un réalisateur-monteur, comme d'autres sont des réalisateurs-filmeurs, quoi. Donc, du coup, quand un événement comme ça se passe, non, je ne peux pas. Je ne peux pas y aller en tant que réalisateur. Et si un jour je fais un film sur les Gilets jaunes, ça sera dans quelques années, avec de l'archive, etc. Mais pas sur le présent, ça, vraiment, ce n'est pas ma place. Mais après, c'est très important, et du coup, je trouvais ça assez positif, au-delà de l'irruption des Gilets jaunes, le fait que autant de cinéastes s'en emparent. De sentir qu'il y a quelque chose là d'important auquel il faut participer. Alors, normalement, les cinéastes, de temps en temps, font des trucs un peu bonne conscience. On va à Calais, on amène tous les cinéastes de la SRF faire des films à Calais, interroger des migrants, bon, la lutte des sans-papiers. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là, mais c'est quand même c'est souvent un peu maigre d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas assez. Ça, c'est sûr. Il faut que ça se passe, mais c'est pas assez. Là, sur les Gilets jaunes, on sent qu'il y a une espèce de. À la fois des réalisateurs déjà installés s'emparent de ça. Soit ont filmé, soit font des films aujourd'hui autour des Gilets jaunes. Et il y a eu aussi énormément de films qui sont arrivés de très jeunes cinéastes, des films militants. Moi, j'ai vu pas mal de films militants, quoi, vraiment bien. Des films d'agite propre, des films. Il y a une espèce de retour du cinéma militant autour des Gilets jaunes. Et ça, c'est vraiment très. Je reste très optimiste de ça, malgré le fait que le mouvement s'est étiolé et que c'est. Que c'est la situation est malheureusement compliquée, que c'est un mouvement qui n'a pas pu grandir. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et autour du cinéma documentaire et militant, il s'est réellement aussi passé quelque chose. Après, il va falloir qu'on revienne aux années 70 et coupler le travail des cinéastes sur un mouvement social et aussi la possibilité de donner à ce mouvement social les moyens de se représenter lui-même.
Justement, à propos de leur représentation... ce qui nous a frappé, nous, très vite, c'est la façon dont les Gilets jaunes se filmaient eux-mêmes et diffusaient en direct, se diffusaient en fait eux-mêmes en direct avec leur smartphone sur les réseaux sociaux. Il y a une quantité incroyable d'heures de direct vidéo qui gisent dans les serveurs de Facebook ou de YouTube. Leurs images et leurs sons peuvent-ils être réutilisés afin de raconter ce mouvement aujourd'hui ?
Ben, ça le sera, je pense. Forcément, ça le sera. Parce que ce qui manque, le direct, c'est bien pour le temps du contemporain. Mais après, il va falloir raconter cette histoire ou la poursuivre, hein, enfin, ou créer des objets. Il va falloir repasser par du cinéma ou peu importe si ce n'est pas du cinéma. Mais en tout cas, à un moment, il faut écrire, il faut monter, il faut condenser toute cette matière qui est importante pour le présent, mais qui, pour le futur, doit être assemblée, doit être remontée. Mais oui, je pense que ça le sera.
Est-ce qu'il faut avoir été un cinéaste qui a été engagé dans le mouvement, un homme ou une femme qui a été engagé dans le mouvement, et avoir cette légitimité pour pouvoir remonter leur vidéo ?
Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément avoir été militant pendant les Gilets jaunes, avoir manifesté, etc., pour s'en emparer. Moi, je ne sais pas, j'ai fait une jeunesse allemande sur la RAF, et le mouvement de 67-68, je n'étais pas là-bas. Enfin... je l'ai vécu, il n'y a rien de mon expérience qui fait que j'étais proche de ça. Donc je pense qu'on peut, après ça dépend qui le fait, dans quelles conditions, dans quel contexte. C'est sûr, quand il y aura des compilations d'images des Gilets jaunes pour BFM TV, là on peut dire non, a priori.
Il y a déjà des remontages, mais qui sont d'ordre humoristique ou anecdotique sur YouTube.
Ah, je ne les ai pas vus encore. Mais, forcément, mais la connerie elle est universelle. Donc,
Comme vous parlez de BFM TV, est-ce que vous pensez qu'il faut intégrer des images de la télévision et des chaînes d'infos en continu dans des hypothétiques films de remontage sur les Gilets jaunes ?
C'est une des possibilités. Enfin, je sais pas, un montage dialectique où on voit... Il y avait des moments quand même incroyables. Bon, je regarde pas assez évidemment BFM TV, mais des fois je vais chez le dentiste ou chez le coiffeur, donc, donc je peux voir ce qui se dit chez BFM TV. Je sais pas, par exemple, tous ces chroniqueurs qui se moquaient des Gilets jaunes parce qu'ils font des fautes d'orthographe dans leur post Facebook ou Twitter, ça c'est génial. C'est pain béni pour... si on veut critiquer la manière dont les médias ont montré les Gilets jaunes. C'est une des possibilités.
Dans un registre différent, aujourd'hui, il y a aussi une très grande quantité d'images de morts qui émanent du terrorisme, notamment de l'État islamique, de Daesh, qui met en scène et diffuse sur Internet des films d'exécution, d'extermination et de lynchage, ou encore le film réalisé par l'extrémiste Bretton Tarrant lors de son attentat à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars dernier. Comment pensez-vous qu'il faut manœuvrer avec ces images ?
J'ai aucun début de réponse. C'est des images que je ne comprends pas. Enfin, je parlais tout à l'heure des images de mort, d'une photo où je pouvais rester toute la journée et impossible à monter. C'est des choses que je ne... Enfin, je pourrais un peu réfléchir à froid, de manière un peu intello, sur pourquoi Daesh a utilisé les moyens du cinéma américain pour représenter des mises à mort. Enfin, on pourrait raconter des choses, mais moi, j'arrive. C'est quand même des images que je n'arrive pas à penser, comme je n'arrive pas à penser des images de policiers qui tabassent des manifestants, qui le filment même, enfin, commentent la jolie. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on passe par. Qu'on ait besoin de passer par l'image. C'est très abstrait, parce que le problème n'est pas tant la mise à mort de l'ennemi, quel qu'il soit, que le fait que l'on pense que ces images de mise à mort vont servir à but de propagande idéologique, de publicité. C'est un mouvement que je ne comprends déjà pas, que j'ai toujours pas compris en ayant travaillé sur la RAF et pourquoi ils ont commis ces attentats de manière publicitaire, c'est-à-dire de la propagande par le fait. Ça m'échappe vraiment complètement. J'ai du mal à voir où, d'un coup, ça va créer de l'empathie de la part de spectateurs, seuls les gens déjà convaincus ou pro-Daesh vont apprécier ces images-là comme un spectacle. Mais sinon, personne ne va commencer, à adhérer à Daesh, parce qu'on voit des photos, des images bien faites où ils exécutent des gens. J'ai du mal à comprendre le concept de ces images-là. Et elles sont insoutenables à regarder, donc je ne les regarde pas.
Vous pensez qu'il faut faire disparaître ces images ?
Non, il ne faut rien faire disparaître, mais il faut qu'à un moment, des gens travaillent dessus pour essayer de les comprendre.
Est-ce qu'il est envisageable de les remonter un jour ?
Je pense que ça a déjà été monté, non ? Il y a eu des films qui ont utilisé les images de Daesh. Je n'ai pas vu Argenté, mais c'est peut-être pas dans Argenté, mais dans un film documentaire, il n'y a pas très longtemps qu'il les avait... Enfin, il y a 2-3 ans qu'il les a utilisés.
Le livre d'images aussi de Jean-Luc Godard, qui reprend une...
Ah oui, d'accord, mais je ne l'ai pas vu encore.
Qui reprend une image d'exécution depuis un immeuble de Daesh.
Et Godard avait déjà utilisé des images très violentes de la guerre en Bosnie, dans Portrait du XXIe siècle, ou des scènes de snuff movie, etc. Je le trouve... Enfin, à chaque fois, c'est ce qui me dit qu'il ne peut pas y avoir d'interdit. Il y a quand même toujours des gens qui sont capables de les utiliser et de leur donner du sens, de les questionner, etc. Donc je ne sais pas comment ils font. Ça, c'est la question pour moi mystérieuse. Mais en tout cas, il peut pas y avoir... Il y a toujours des manières de les interroger, ces images.
Ouais, ça pose la question de comment remonter ces images aussi.
Oui,
comment les utiliser.
Là, c'est le début du problème, quand on est réalisateur.
On approche de la fin de cet entretien. Quels sont vos nouveaux chantiers visuels, en cours ou futurs ?
Ah, j'ai un peu trop de projets, là.
Est-ce qu'il y en a un dont vous aimeriez nous parler pour nous donner des indications sur là où vous allez en termes de forme de cinéma ou de sujet ?
En fait, il y a 3 projets sur lesquels je travaille, et évidemment, comme d'habitude, assez éclaté. Il y a un film, plus une histoire de la classe ouvrière française et de la bascule du grosso modo du PCF au Front National. Il y a un film sur Sarajevo, sur le siège où je vais. J'avais l'âge au moment de Sarajevo où les jeunes de là-bas devaient partir à l'armée. Et ça continue de me questionner, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'avoir 18-20 ans et d'avoir un pistolet entre les mains et d'aller défendre sa ville, très concrètement. Je trouve qu'en termes d'engagement, c'est quand même une chose assez terrible. Et du coup, j'ai envie de revenir à Sarajevo pour parler du siège et pour interroger ces gars qui, aujourd'hui, ont 40-50 ans.
On va les filmer.
Oui, avec des interviews et parler aussi de ceux qui, en plus de l'armée, faisaient des films, des images. Pourquoi ils faisaient des images en même temps, enfin, interroger, revenir un peu aussi sur les questions du cinéma dans ce cadre-là. Et le troisième projet sera peut-être mon premier film absolument, totalement apolitique. Voilà, c'est aussi assez agréable d'imaginer de faire un film pour le plaisir. Bon, après, c'est un film sur la musique, et la musique est quand même un des éléments importants.
Comédie musicale.
Oui, voilà. Et quand même assez important dans mon travail. Donc, j'ai envie de travailler cette chose-là et d'essayer de faire un film, pour le coup, comme un challenge. Comme j'aime bien essayer des choses que je ne sais pas faire, faire un film sans politique, ben voilà, je vais essayer ça une fois.
Est-ce qu'il sera quand même politique
Un petit peu.
Non.
Vous essayez pas de le penser comme ça ?
Non, après, il pose la question qu'on peut retrouver dans pas mal de mes films, c'est en tant qu'individu, à quel moment on est raccord avec ce que l'on pense ? Comment ne pas se faire happer par les contradictions, par le quotidien ? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas être un peu plus fou que ce qu'on est pour être plus en adéquation avec finalement ce que l'on est, quoi, ce que l'on pense ?
Soyons fous, alors.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jean-Gabriel Perriot, d'avoir participé à ce 14e grand entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt.